Donc, on travaille sur les constructions du bio et du terroir chez les producteurs de Gaillac. Donc, on essaie de promouvoir le vin naturel, le vin bon pour la santé, mais quelle est la position du terroir dans ce nouveau mouvement? C'est ce qu'on a souhaité interroger. Le vignoble de Gaillac, le plus grand des petits vignobles du sud-ouest, comme les producteurs adorent le dire. À mon avis, ça ne signifie pas grand-chose, mais voilà, ils sont fiers de cette expression. Un vignoble situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Toulouse. Alors pourquoi une étude sur ce cas-là en particulier? C'est parce qu'il nous a semblé assez intéressant dans son caractère courant. Les recompositions auxquelles il est soumis se retrouvent dans bien d'autres vignobles à peu près aux mêmes périodes. On va retrouver à peu près les mêmes phénomènes. En particulier, si on regarde ce qui s'est passé à partir des années 1970, on va retrouver toute une démarche assez classique de construction des interprofessions, d'organisation collective pour redynamiser ce vignoble. On va trouver aussi tout un mouvement de préservation des spécificités dans la conduite de la vigne et dans la vinification. Il y a quelques techniques, quelques savoir-faire particuliers à ce vignoble. Il y a également tout un processus d'amélioration des chais, de modernisation des chais. On commence à voir à cette période des années 70, 1970, une remise en valeur des cépages locaux. Donc voilà, toute une série d'axes de travail dans ce vignoble qui, en fait, correspondent en résumé à l'orientation vers la qualité, vers la viticulture de qualité, la viticulture de terroir. Donc ceci s'est formalisé en particulier par la démarche appellation d'origine contrôlée. Donc on va miser sur un modèle de développement en termes de vin de terroir. Alors, malgré la polysémie du mot terroir, ou peut-être plutôt même grâce à la polysémie du mot terroir, donc on est là encore dans un vignoble où évidemment la définition du terroir n'est pas tranchée, continue de faire débat depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui encore. On a des acceptions un petit peu différentes du terroir selon nos interlocuteurs. Et donc on va retrouver, si on reprend un peu les réflexions scientifiques sur le sujet, on va retrouver un peu aussi les mêmes préoccupations. Donc là, j'ai simplement pointé deux définitions de collègues sur le terroir qui montrent quelques points de différence. Donc Jean-Claude Inwinkel définissait le terroir, enfin estimait qu'une partie du monde scientifique définissait le terroir comme une entité agronomique, caractérisée par l'homogénéité des éléments géologiques et pédologiques, donc texture, granulométrie, etc. Par une homogénéité également d'éléments topographiques, altitude, pente, exposition, et climatologiques, pluviométrie, température, insolation, complétés par des facteurs humains. Donc là, dans cette définition, Jean-Claude Inwinkel est très précis sur la partie géographie physique et beaucoup plus succinct sur la partie géographie humaine. En complément aussi, la définition d'un groupe de travail INRA et INAO qui avait été posé en 2005. Pour essayer de faire reconnaître internationalement une définition du terroir, mais le débat, là encore, à l'échelle internationale, court toujours. Donc là, le terroir est présenté comme un espace géographique, délimité à partir d'une communauté humaine qui construit, au cours de son histoire, un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs, de pratiques, fondés sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains. Donc là, c'est un peu la logique inverse. On pose que le terroir, c'est d'abord une construction socio-spatiale, et effectivement qui est le fruit d'interactions entre des facteurs humains et un milieu naturel. Voilà. Donc le primat doit-il aller à des facteurs de géographie physique ou à des facteurs de géographie humaine? C'est peut-être pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais voilà, on sent bien qu'il y a des discussions autour de ce concept de terroir. Et plus largement, lorsqu'on interroge les acteurs dans ce vignoble de Gaillac comme dans d'autres, on trouve également des définitions du terroir beaucoup plus générales, beaucoup plus évasives. Alors, soit comme territoire d'appartenance, finalement, le terroir, c'est un élément de l'identité territoriale, ou bien, plus largement encore, le terroir, c'est finalement un support de communication avant toute chose. Voilà. Donc on sent bien qu'on a un terroir qui ne constitue pas une référence partagée de la même manière par tous les producteurs lorsqu'il s'agit de définir l'authenticité et la qualité de leur production. Voilà, donc comme dans bien d'autres vignobles, on a une orientation vers le terroir qui devient très forte à partir dans les années 70, même si la définition du terroir n'est pas tout à fait stabilisée. Ça porte ses fruits, enfin, ce modèle-là de développement porte ses fruits, dans la mesure où la production sous AOC, donc là je reparlerai peut-être un peu plus loin de la production du vignoble de Gaillac en général, mais la production sous signe officiel de qualité, sous AOC précisément, passe donc de 1200 hectares en 1973 à 4200 hectares en 2003. Donc on a un modèle qui finalement est adopté par de plus en plus importantes des producteurs. Là encore, comme dans bien d'autres vignobles, environ dans les années 2000, on va avoir une remise en question de ce modèle-là. Voilà, l'orientation prise n'a pas permis d'endiguer la crise des années 2000, la diminution de la consommation de vin en particulier en France. Bon, les ressorts développés dans les années 70 ne fonctionnent plus aussi correctement. Et donc on va avoir à partir des années 2000-2003 à nouveau une régression de la production sous AOC pour redescendre à 2650 hectares cultivés en 2010. Il semble qu'on arrive vers une stabilisation des surfaces produites sous AOC des surfaces cultivées pour de la production sous AOC dans ce vignoble. Mais voilà, donc fin des années 2010, la surface cultivée pour de la production sous AOC repasse en dessous des 50% de la superficie du vignoble. Tandis que les surfaces cultivées en vue de produire du vin de table se stabilisent autour des 1000 hectares. Voilà, donc on est dans un contexte d'évolution des consommations, dans un contexte de concurrence de plus en plus mondialisée. François Le Guy, par exemple, résume bien les nouveaux éléments du contexte. Et donc dans cette situation-là, est-ce que le modèle AOC est le plus pertinent? Donc à Gaillac comme ailleurs, on a des mises en question et puis de nouvelles voies qui sont en cours d'exploration. Et là, on sent une certaine hésitation avec d'un côté une partie des producteurs et des collectifs de production qui s'orientent vers l'international, qui jouent le jeu de la mondialisation, avec le développement de vins de cépage, le développement de ce qu'on appellera des vins technologiques, donc qui sont très maîtrisés et donc très, très homogénéisés d'une année sur l'autre par des pratiques qui demandent des infrastructures, disons, industrielles. Donc c'est en particulier le groupe Vinovali, qui est d'origine gaillacoise, qui porte cette stratégie-là. Et puis de l'autre côté, on a une production localisée de vins de terroir qui essaie de rebondir, qui essaie de se relancer, de se démarquer, en affirmant de manière différente ou en jouant sur d'autres registres, donc en remobilisant des patrimoines matériels et immatériels en termes de spécificité de sol, de cépage, de savoir-faire, en mettant l'accent sur, justement, à l'inverse, l'impossibilité d'avoir un produit identique d'une année sur l'autre, et donc on revalorise le millésime. Voilà, puis donc ces deux grandes réorientations sont évidemment très, très influencées par les nouvelles tendances de consommation, en particulier l'engouement pour le bio, pour les produits bio en général, pour le naturel de manière plus large. Donc si on parle de vin bio, je précise tout de suite qu'il s'agit d'un raccourci. C'est l'idée de vin bio. Enfin, entre l'image qu'en ont les consommateurs et ce qu'est le produit vin bio en réalité, il peut y avoir quand même un certain décalage. Donc vin bio, c'est simplement une expression raccourcie pour parler du vin produit grâce à des raisins issus de l'agriculture biologique. Voilà, donc nous avons des raisins bio, avec ça on fait du vin. De là à dire que directement que le vin est bio, il peut y avoir controverse parce que pour faire du vin que l'on maîtrise, on ajoute des sulfites, on peut ajouter voilà, différents produits, on a différentes techniques de traitement. Ce qui fait d'ailleurs la différence avec les vins naturels. Donc pour avoir un autre point de vocabulaire, voilà, l'idée du vin naturel, c'est qu'on a un raisin qui n'est pas forcément un raisin bio, mais par contre qu'on va vinifier avec. Alors dans l'idéal, zéro intervention humaine, il y a quand même un peu de cadrage. Il peut y avoir quelques produits ajoutés au raisin. Mais voilà, dans l'idéal, le vin naturel, c'est le vin qui se forme quasiment tout seul à partir du moment où on stocke le raisin dans des conditions propices. Voilà, donc entre vin bio, vin naturel, on a des interactions importantes, mais on a deux vocabulaires qui en fait recoupent des réalités. Clairement différente. Alors cet engouement pour le bio, donc entre 1995 et 2010, les surfaces de vignes conduites en bio ont été multipliées par 10. Donc on est passé en gros de 4 800 hectares en 1995 à 50 000 hectares en 2010 en France. Voilà. Puis on estime qu'entre 2005 et 2010, la consommation de vin bio a augmenté de 60%. Voilà, donc j'en viens plus précisément à la question qui nous a occupés dans notre étude de cas. Donc cet essor du bio implique-t-il un effacement ou au contraire une redynamisation des références au terroir? Est-ce qu'on renonce à un modèle, on essaie de le remplacer par un autre, ou est-ce qu'en fait le bio serait une manière de redynamiser le modèle AOC, le modèle qualité de terroir? Donc face à ces interrogations, nous avons choisi de nous intéresser aux producteurs, à leur représentation, leur pratique de la viticulture biologique. Donc comment appréhendent-ils le vin bio? Pour eux, qu'est-ce que c'est qui fait la qualité du vin bio? Est-ce qu'il y a un lien ou non avec. Est-ce qu'il y a une mobilisation de l'idée de terroir dans leur discours? Plus largement, comment concourent-ils à dynamiser le marché des vins de Gaillac? Quelle place prennent les producteurs bio dans l'ensemble du vignoble et de la production de vin à Gaillac? Comment est-ce qu'ils participent au réagencement de ce qui fait ressource dans ce territoire? Donc nous nous sommes basés sur une trentaine d'entretiens semi-directifs qui en fait nous ont conduit à identifier des groupes de producteurs. Donc c'est une simplification de la réalité pour rendre compte de ce que nous avons identifiés sur le terrain. Il nous semble quand même qu'on a trois groupes qui, même si on a toujours un petit peu de chevauchement d'un groupe à l'autre, se définissent, s'identifient assez clairement. On a des groupes de viticulteurs bio qui se distinguent par leur positionnement vis-à-vis de la profession, soit au cœur de la profession, soit plutôt en marge. Des groupes de viticulteurs bio qui se distinguent par les modes de commercialisation qu'ils ont retenus, par le modèle de développement qu'ils portent, donc un modèle de développement agricole et derrière un modèle de développement du territoire, donc disons du vignoble. Et puis, donc le dernier élément que nous avons essayé d'approfondir en particulier, des groupes de producteurs qui se distinguent également par une relation différenciée aux différentes composantes, disons classiques, du terroir, plutôt liées à de la géographie physique, et du terroir plutôt liées à de la géographie humaine. Voilà, donc à partir de ces entretiens et de cette grille de lecture, je vous propose quatre temps dans la présentation. Donc de notre analyse de cette trentaine d'entretiens ressortent tout d'abord un certain nombre d'éléments de discours qui sont communs, qui sont assez transversaux aux différents producteurs interrogés. Alors soit qu'il s'agisse d'éléments de contexte que je vais résumer. Non pas m'appuyant sur les entretiens eux-mêmes, mais sur des données qu'on a pu recueillir par ailleurs. Et puis après, il y a effectivement des préoccupations qui sont largement partagées par les différents producteurs. Et ensuite, dans les trois parties qui suivront, nous ferons un point sur les trois groupes de producteurs que nous avons identifiés et sur un peu les trois manières de faire terroir que nous avons identifiées. Alors le contexte commun, c'est quand même un vignoble plutôt en crise des années 70 aux années 2010, même si un énorme travail a été accompli pour développer l'AOC et retrouver, enfin, inventer un nouveau modèle de développement, il n'empêche que ce vignoble qui faisait 24 000 hectares en 1973 n'en fait plus que 7 000 aujourd'hui. Alors c'est quand même, enfin, au-delà de cette rétraction très forte du vignoble, mais que l'on constate dans bien d'autres cas, ouais, c'est très, là encore très courant. La particularité qu'on aura dans ce cas du vignoble de Gaillac, c'est la diversité. Donc une diversité qui permet de produire tout type de vin. On a un vignoble dans lequel on produit du rouge, du rosé, du blanc sec, du perlé, du doux, du mousseux, du primeur. Voilà, à peu près tous les types de vins sont en production aujourd'hui encore dans ce vignoble. Donc une histoire de l'appareil de production, des traditions de vinification qui est extrêmement complète. Une diversité qui tient aussi fortement au cépage, y compris dans le décret d'AOC. Aujourd'hui encore, même s'il y a eu un effort pour limiter un petit peu et recentrer la production sous AOC autour des cépages considérés comme les plus traditionnels, on a aujourd'hui encore une douzaine de cépages qui sont reconnus par le décret d'AOC. Voilà, et puis diversité également dans les conditions pédoclimatiques. Au nord, là, tout un plateau argilo-calcaire à 250-300 mètres d'altitude. Donc c'est la zone la plus tardive de maturation du raisin. La plaine, les graves de terrasses en rive gauche du Tarn. Alors ces terrasses-là sont exposées plein sud, sont relativement protégées par un grand massif forestier. Et puis on a donc dans l'îlot qui est un peu à l'écart, donc qui est à l'est d'Albi, on a une zone de schiste, donc de sol plutôt acide. Voilà, donc des conditions assez variées. Les producteurs bio se disséminent au milieu de l'ensemble des producteurs conventionnels. Simplement, il n'y en a pas dans le noyau de Cunac, dans la partie à l'est d'Albi. Mais sinon, pas de répartition géographique très particulière des producteurs bio. Voilà, donc une diversité qui est de plus en plus considérée comme un atout pour tous ces producteurs en recherche de nouvelles voies de développement. Ce qui fait que dans les différents supports de communication, on lit davantage des propos sur les terroirs de Gaillac plutôt que sur le terroir de Gaillac. Donc là encore, ça alimente le débat sur cette notion de terroir. Lorsqu'on veut insister sur la diversité pédoclimatique, on va insister sur les terroirs de Gaillac. Lorsqu'on veut insister sur l'unité culturelle, l'unité technique en termes de savoir-faire, là on met l'accent sur le terroir de Gaillac et ses 2000 ans d'histoire, puisque donc différents travaux d'historiens ont remonté sur 2000 ans la production du vin dans ce territoire. Voilà. Alors le développement du bio, je n'avais pas de données précisément liées à ce vignoble-là, donc on prend à une échelle légèrement plus vaste le département du Tarn dans son entier, et donc on peut constater qu'en matière de viticulture bio, nous sommes dans un département où le développement de la viticulture bio est particulièrement marqué. Trois producteurs en 1995, une quarantaine aujourd'hui à l'échelle du département dans son entier. Une quarantaine donc sur un total de 400 vignerons à peu près, donc ça fait 1 sur 10, 1 sur 2,5 si on ne prend en compte que les vignerons qui travaillent en commercialisation directe. Voilà, donc ça c'est le contexte commun. On peut compléter par un discours partagé sur l'environnement, la qualité. Ce qui est transversal à l'ensemble des producteurs bio, ce qui fonde un principe commun lorsqu'ils parlent de la qualité de leur vin, c'est ce qu'ils appellent la naturalité. Enfin, c'est ce qu'on pourrait qualifier le caractère naturel de leur vin. Donc la naturalité, c'est, enfin, dans la manière dont on l'a compris, un ensemble de représentations culturelles de la nature qui sont centrées sur la recherche d'un vin sans additifs, sans apport exogène, sans apport chimique. Donc la naturalité par opposition à l'artificialité d'un ensemble d'interventions qui sont perçus plutôt de manière négative, comme relevant d'une logique productiviste, comme considérant le sol simplement comme un support de production, les contraintes naturelles, enfin les conditions naturelles, pardon, comme des contraintes qu'il faudrait lever. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de préoccupations qui pose que la viticulture biologique, c'est un mode de production qui respecte les grands équilibres naturels, qui respecte la diversité des espèces végétales et animales, qui s'interdit l'emploi de produits chimiques de synthèse, plus largement qui participe à la préservation de la planète, qui propose des vins de qualité environnementale. Voilà, donc on a tous ces éléments de discours là sur la naturalité. Et puis c'est complété par quelques éléments de discours sur le respect du bien commun, sur un certain engagement citoyen, le respect du consommateur, le respect de l'espace dans lequel on travaille. Donc voilà pour les éléments généraux, transversaux. Quand on creuse un peu plus derrière ces éléments transversaux, ben on retrouve quand même des sensibilités relativement différentes. Donc nous avons regroupé en trois catégories, donc qui nous amène à trois groupes de producteurs. Alors cette diversité de sensibilités, on la retrouve, c'était peut-être la manière la plus simple pour moi d'illustrer cela, on la retrouve dans la manière de communiquer sur le produit vin. Donc on va retrouver des diversités de démarches vin naturel ou vin bio, entre la certification agriculture biologique, dans les démarches de reconnaissance de la qualité du produit, déjà on a au moins trois manières de l'afficher, mais on va retrouver à chaque fois des combinaisons entre donc le vin naturel, le vin bio, le terroir, une combinaison également d'affichage avec le cépage. C'est le cépage Mosaque vert, donc c'est un vieux cépage traditionnel qui a été redécouvert et revalorisé. Ça vient s'articuler également avec la renommée du producteur. On aura dans notre cas plutôt le domaine qui est mis en avant. Et puis, tout un ensemble d'autres éléments qui viennent s'entremêler avec le terroir, le bio et le cépage ou le domaine. Une opposition peut-être à l'industrie, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en disant... La naturalité, c'est d'abord, dans bien des cas, une prise de distance par rapport à l'artificialité. Et plus largement encore, donc des références à la musique, à une certaine liberté. Donc le petit Matins des grands soirs, donc c'est le vin du domaine de Matins. Il y a d'autres vins qu'ils ont baptisés, Salamatens, Alekoum, enfin voilà, il y a des contes prêtris, il y a un peu de tout. Donc c'est déconseillé aux femmes enceintes de boire, évidemment. Mais on a un autre petit logo qui est parfois mis à côté, un peu du même style, mais qui est en fait un logo interdit au blaireau. Voilà. Donc dans toutes les imaginations, voilà, l'affichage montre bien la diversité des démarches chez les producteurs de vins naturels et de vins bio. Voilà. Que, partant de là, nos trois groupes identifiés, donc le terroir recentré sur les systèmes locaux, donc là c'est ce que nous retenons d'un groupe qu'on a qualifié d'alternatif, un premier ensemble de producteurs qu'on qualifie d'alternatif entre guillemets, hein, c'est... Parce qu'il fallait bien trouver un nom à ce groupe-là, ça pourrait se débattre un peu. Dans ce groupe-là, nous avons affaire à des producteurs qui visent avant tout le respect de la santé, donc la sécurité sanitaire, la santé du producteur, de ses proches, de tous les consommateurs, des voisins. Donc le plus important pour eux dans la qualité de leur vin, c'est absolument l'absence de produits de traitement, de substances considérées comme dangereuses. Même le soufre et le sulfate de cuivre, dans bien des cas, sont autant que possible bannis. Donc pour eux, la qualité de leur vin, c'est la qualité d'un vin alternatif parce qu'un vin sain. Donc c'est vraiment une différenciation, une mise à distance de tous les vins qui nécessitent l'emploi de produits de traitement. Alors ces producteurs correspondent aux historiques ou aux pionniers des producteurs bio sur le territoire. Le premier qui s'est implanté à Gaillac s'est implanté en 1985. Et donc pour eux, la viticulture bio, c'est un mode de vie. On ne fait pas simplement de la vigne en bio, c'est toute l'exploitation forcément qui est en bio. Et on est assez fréquemment sur une exploitation qui combine la viticulture bio et d'autres productions, elles aussi en bio. Et au-delà, c'est le mode de vie, le mode de consommation qui est aussi raisonné pour être le plus respectueux possible de la santé, le plus à l'écart des produits de traitement. Voilà, on va retrouver beaucoup de partisans de la décroissance, on va retrouver un discours militant particulièrement marqué dans ce groupe-là. Un effort important d'information des visiteurs sur un ensemble de salons, de stands, de lieux de vente, tout un travail de formation sur les vins bio, sur les bienfaits du vin bio sur la santé. Voilà, plutôt proche de la Confédération paysanne. Et donc on va retrouver par exemple des tracts ou de la presse engagée sur ces stands, pourquoi nous avons fauché les vignes OGM de l'INRA, enfin voilà, un peu cet esprit-là. Alternatif aussi dans le sens où c'est le groupe qui clairement s'est heurté à la profession. Il y a une crise en particulier qui montre bien cela, c'est un problème de flavescence dorée, donc une maladie de la vigne qui les a beaucoup affectés dans les années 80, enfin de 85 à 95. On leur a donné l'injonction d'arracher les vignes, dans la mesure où ils refusaient de traiter, on leur a imposé d'arracher les vignes. Un bon nombre d'exploitations ont failli ne pas s'en remettre. Il y a quand même eu une lutte très, très importante pour réclamer puis obtenir le droit d'expérimenter des solutions alternatives pour lutter contre cette maladie. Donc, expérimentation du recours à la rotenone, au pyrèthre naturel. Il y a également des systèmes en utilisant une argile qu'on saupoudre sur les vignes. Petit à petit, même s'il a fallu arracher beaucoup, ces pionniers-là, ces alternatifs ont réussi à expérimenter, quelquefois en marge de la réglementation, et à faire reconnaître un certain nombre de techniques alternatives qui fonctionnent, peu ou prou fonctionnent. Puis on a des pionniers qui revendiquent le statut de paysans, et qui pour beaucoup sont des personnes venues s'installer. Ce ne sont pas des viticulteurs déjà en place sur le vignoble ou héritant d'un domaine. Ce sont essentiellement des personnes venues de l'extérieur. Voilà, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide dans ce groupe, donc sur la mise en marché, l'aide à l'installation, le partage de salariés, de terres, l'échange de matériel, sur la location des stands dans les salons. Un collectif assez soudé. Une chorale commune, enfin j'en passe. Et puis, un lien important avec Nature et Progrès. Pour la commercialisation, donc la mise en marché qui est privilégiée, c'est plutôt la vente en vrac et à proximité, avec des personnes que l'on connaît qui viennent directement sur l'exploitation, sur la ferme, s'approvisionner. On a un développement de la mise en bouteille, mais qui est plus récent. Et donc on positionne le vin plutôt comme un produit courant, un produit de consommation courante, ce qui n'est pas du tout la logique de bien d'autres modèles développés jusqu'ici. On n'est pas du tout sur le vin comme produit prestigieux. Ce sont les voisins qui, avec leur cubi, viennent faire le plein d'un produit de consommation relativement courant. Et du coup, sur le niveau de prix, ça se retrouve également, donc des prix comparables à ceux proposés par les producteurs conventionnels. En matière de pratiques viticoles, donc l'accent est mis sur l'équilibre, le respect des équilibres donc assurés par la diversité. Pour qu'une exploitation, selon ce groupe-là, fonctionne correctement en bio, il faut une diversité de cépages, une variété dans les ceps qui sont plantés, une diversité de plantes autour des ceps de vigne pour une régulation des parasites. Voilà, et donc là, on a une distance assez intéressante, en tout cas dans les conceptions de ce groupe-là vis-à-vis des autres groupes que nous verrons tout à l'heure. Il n'y a pas de crainte, comme chez d'autres viticulteurs, concernant le renouvellement des cépages. L'idée qu'il faut se recentrer absolument sur les cépages traditionnels, pour ce groupe-là, Tous les cépages sont intéressants dans la mesure où ils participent à avoir une diversité locale, même s'il s'agit de cépages bordelais qu'on avait mis en place dans les années 60 lorsqu'il s'agissait d'augmenter les volumes. Il n'y a pas d'a priori sur les cépages qu'il est opportun ou pas de maintenir. Voilà. Puis le terroir chez les producteurs de ce groupe-là n'existe pas vraiment. On n'a pas une mobilisation forte de référence au terroir, du moins au moment de leur installation. Ce qui justifie l'installation, c'est bien souvent l'existence d'une opportunité foncière. Donc il y a des terres, considérées de manière très générique. Mon installation a pu se faire n'importe où. Je suis venu ici parce que le foncier n'était pas cher. Bon, voilà un peu le critère premier lorsque ces viticulteurs-là viennent s'installer. Et puis une fois que l'installation est effectuée, le terroir correspond principalement à un écosystème dont on mesure les spécificités locales avec un ensemble d'essais, d'erreurs dans les pratiques saison après saison. Et ça n'est que éventuellement sur la période la plus récente que on commence à appréhender le terroir comme une ressource spécifique. Donc où on commence à dire effectivement c'est un élément aussi pour faire reconnaître davantage la qualité de notre production. Voilà, groupe suivant, donc que nous avons qualifié groupe des esthètes. Pour eux, le terroir, c'est plutôt quelque chose qui est offert à leur créativité. Voilà, un peu artiste, effectivement, on a des vins artistes qui se qualifient comme cela dans ce groupe. Donc là, nous avons affaire à des viticulteurs très en vue, très en pointe, à l'échelle nationale, voire internationale. Et donc pour eux, le bio, c'est la recherche d'un équilibre écologique entre viticulture et milieu naturel, comme à peu près tout l'ensemble des producteurs. Mais c'est aussi, et je crois que c'est surtout cet élément-là qui les intéresse, l'expression naturelle de notre terroir et des parfums de nos cépages. Donc c'est le moyen de faire ressortir l'originalité du vin qui est produit à Gaillac. Voilà, l'idée c'est que s'il n'y a pas d'apport, si on travaille en bio, s'il n'y a pas d'apport artificiel, entre guillemets, alors c'est le milieu naturel qui nourrit la plante, qui s'exprime. Donc c'est le meilleur moyen de faire ressortir les qualités organoleptiques les plus expressives de notre terroir de Gaillac. Donc là, il travaille sur toutes les dimensions du processus. Les sols, les expositions, les cépages, les techniques de taille, les techniques de cuvaison. Il y a également une mobilisation forte de référence à l'histoire collective. Donc il y a un attachement particulier aux usages locaux, au travail d'archives pour arriver à retrouver trace des anciens cépages peu ou prou oubliés. Voilà, donc les cépages historiques du Gaillacois, le Mozac qu'on a vu en bouteille tout à l'heure, le lin de l'aile, le brocol, le duras, le prunelard, l'ondenc. Donc il y en a toute une série qui sont exhumés en particulier par ce groupe. Leur organisation s'est construite assez fortement autour d'une association, l'association Terre de Gaillac, dans laquelle on entre peu ou prou par cooptation. C'est un peu un cercle un peu élitiste. Voilà, donc cette association précise que le vin de nature doit exprimer le génie des lieux, accepté jusque dans son défaut. Un produit bien fait, respectueux de la nature, loin de l'esprit des vins commerciaux, qui sont volontairement standardisés, donc des vins naturels à l'opposé de leur normalisation, qui essaient d'être au plus près de la qualité de goût des raisins et de puiser leur typicité dans leur terroir respectif. Bon, voilà un résumé, la philosophie des esthètes. Donc on a beaucoup, enfin la majorité de ces producteurs-là, qui ont démarré leur réflexion par les vins naturels et qui sont venus au bio en prolongement de leur réflexion sur les vins naturels. Là, nous avons affaire à des producteurs qui sont installés de longue date, plusieurs générations parfois, et puis viennent s'ajouter à ce noyau de viticulteurs installés de longue date et très reconnus, quelques producteurs plus récents. Alors si les alternatives s'étaient heurtées à la profession par rapport à la question des pratiques viticoles, les esthètes sont reconnus par la profession et par l'ensemble des institutions pour leur travail. En même temps, ils tendent à en être un peu marginalisés parce qu'à force de rechercher l'originalité, on les considère comme des originaux, des artistes, des perfectionnistes, des excentriques, des fantaisistes. Voilà, donc on sent bien des gens très en vue, très en pointe, et en même temps un peu à part. On sent bien là aussi un positionnement complètement différent du produit vin par rapport aux alternatifs. Les alternatifs, c'est le produit vin de consommation courante. Là, on est sur tout un travail pour développer le vin prestige, donc toute la notoriété. Donc on revendique des vins originaux, réguliers dans leurs arômes, expression des cépages et expression des terroirs. Donc on cultive la mise en scène, les professions de foi, les formes des bouteilles. Et ça fonctionne très bien, puisque ces producteurs-là n'ont pas de stock. Tout s'écoule au fur et à mesure, la demande est forte. Bien qu'on ait un prix de vente des vins qui soit élevé, voire très élevé. Du coup, on a une certaine distance par rapport au travail sur les labels ou sur les signes officiels de qualité. Une bonne partie des instituts produisent sous AOC, mais pour eux, ça n'est pas l'essentiel. Il faut que le nom du domaine ou le nom du producteur serve de carte de visite. Et après, éventuellement, par rapport à l'AOC, on a des propos comme quoi les jurys de dégustation en AOC sont... Enfin, les personnes qui participent à ces jurys sont incompétentes, de toute manière... Le cœur de l'affaire est ailleurs. Voilà, donc sur le rapport au terroir, là on sent bien petit à petit avec cette déclinaison que finalement le terroir c'est un ensemble de composants qui sont éprouvés de longue date, de génération en génération, qui sont éprouvés localement. Et puis, cet héritage de composants éprouvés de longue date et localement, par différentes générations, mais aujourd'hui est offert à la génération actuelle, à la créativité de la génération actuelle, pour permettre un produit final qui serait unique. Voilà, donc on est sur une ressource tout à fait spécifique qui doit contribuer à rendre le vin original. Alors, troisième groupe, des modernisateurs de l'AOC. En fait, ce sont des personnes qui sont très fortement engagées en AOC et de longue date, qui se convertissent au bio, parce qu'ils y voient une manière de prolonger tout le travail qui a été fait depuis les années 70 avec l'AOC. Donc une manière de se remettre en phase avec les attentes des consommateurs, donc une manière aussi de consolider la clientèle par rapport à une concurrence de plus en plus rude. Et donc là, on vient chercher essentiellement le label agriculture biologique. La manière de faire reconnaître la qualité du produit, c'est la certification agriculture biologique. Notamment parce que c'est un incontournable pour commercialiser son produit à l'export. Et c'est le groupe qui, le plus clairement, a une stratégie de commercialisation de son vin à l'export. Et en même temps, c'est, dans la majorité des cas, une stratégie parmi plusieurs. Sur l'exploitation, on a rarement affaire à des exploitations qui produisent entièrement en bio. On a une partie en bio, une partie en conventionnel, et selon les débouchés, selon les stratégies ciblant tel ou tel type de client, on aura plusieurs vinifications. Voilà, donc le bio arrive comme un argument supplémentaire, prolongeant le travail sur l'AOC, tout en précisant à chaque fois que c'est réversible. On a trop de problèmes, c'est particulièrement souligné dans ce groupe-là, si on a trop de problèmes avec le bio, on refera machine arrière, il n'y a pas de problème chez ce groupe-là pour revenir en arrière. Un appui complet des institutions agricoles pour tout ce qui est recherche-développement en matière de viticulture durable. On a un groupe là qui est très bien inscrit dans des opérations avec les organisations professionnelles agricoles. On a également un groupe bien inséré dans tous les réseaux de nos tourismes. Après, sur la manière de cultiver, sur les pratiques viticoles, en fait, on reste quand même assez largement dans la continuité sur les conduites techniques, sur la vinification, sur les modèles qui guident les pratiques. On met à profit un matériel imposant et récent qu'on avait développé grâce au développement de l'appellation. On maintient les vendages dans la machine, on ne met pas en question l'ajout de sulfite dans la vinification. Voilà. Mais on en est bien entendu dans le respect du cahier des charges agriculture biologique. Voilà, donc là on est plutôt sur un rapport au terroir considéré comme réactivé par l'agriculture biologique. Donc c'est le bio pour mieux exprimer le terroir. Voilà, et donc pour conclure après ce panel de nos trois groupes, effectivement, On peut estimer que ce développement du bio chez une partie des producteurs du vignoble de Gaillac contribue à renouveler la manière dont la production viticole se territorialise. Comment est-ce qu'elle produit du territoire? Donc on a des définitions de naturalité qui sont un petit peu différentes. Donc tantôt une naturalité qui tient à la quantité de produits exogènes qu'un vin contient ou pas. Pour d'autres, la naturalité, c'est d'abord une notion proche de l'authenticité, d'une expression authentique des terroirs et des cépages associés. Et pour le troisième groupe, la naturalité du vin, ça tient d'abord à la protection des ressources du milieu, du terroir naturel et du patrimoine local. Ça s'articule assez fortement avec trois conceptions des ressources, trois définitions de ce qui fait ressource dans ce vignoble de Gaillac. Donc on a une contribution non négligeable à la réflexion sur comment on construit de la ressource dans ce vignoble. Donc dans le premier groupe, on est plutôt effectivement sur des conditions pédoclimatiques relativement génériques, même s'il y a une déclinaison locale de ces conditions-là. On est plutôt sur des ressources génériques qu'on aurait pu trouver dans n'importe quel autre vignoble qu'on va mobiliser, en tout cas au moment de l'installation. Dans le second groupe, on est plutôt sur un travail pour davantage spécifier, plus encore que dans la démarche AOC, davantage spécifier des ressources. Et puis, dans le troisième groupe, on est plutôt sur une réactivation, grâce au bio, des ressources qu'on avait construites avec la démarche AOC. Voilà, donc tantôt un terroir centré sur l'écosystème local, tantôt un terroir offert à la créativité, tantôt un terroir classique réactivé. Là encore, trois manières de faire terroir, parfois en interaction très conflictuelle les unes avec les autres, et puis plus largement, pour dire un tout dernier mot, en interaction parfois très conflictuelle les unes avec les autres, mais aussi à inscrire dans les réflexions beaucoup plus larges concernant l'ensemble des viticulteurs de Gaillac, où on sent bien que ces réflexions sur le vin bio sont l'un des éléments qui amène à repositionner l'ensemble des stratégies du vignoble, avec d'un côté Vinovalie, de l'autre côté les vins de terroir qui essaient de se revaloriser. La contribution du bio, c'est une contribution parmi bien d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il en adviendra dans ces recompositions, dans ces éliminations ou réactivations de telle ou telle définition, de telle ou telle acception du terroir? Tout dépend des rapports de force qui sont en train de se jouer entre des groupes d'acteurs bien plus larges que les seuls producteurs bio que nous avons examinés ici. Voilà, entre une terre qui serait à terre dans le sens chute, ou une terre qui serait acclamée, les controverses sont encore très vives, et on ne sait pas quelle sera réellement l'issue du débat. Merci.